Bien, alors je suis sûr que vous connaissez des gens dans votre entourage qui se disent croyants, mais non pratiquants. Croyants, non pratiquants. Qu'est-ce que ça veut dire d'habitude quand quelqu'un dit qu'il est croyant, non pratiquant ? Ça veut dire généralement qu'on croit qu'il y a un Dieu, et si on est en plus d'une tradition plutôt chrétienne, ça veut sans doute dire aussi qu'on croit que Jésus c'est quelqu'un d'important, qu'il a sans doute dit et enseigné des choses importantes, et aussi sans doute fait des choses importantes. Mais puisqu'on est non pratiquant, ça veut aussi dire qu'on n'a pas de pratique religieuse particulière, c'est-à-dire qu'on ne va pas à l'église, ou alors on y va plutôt rarement, et on ne s'embête pas vraiment à prier, ou à lire la Bible, ou à faire des choses de ce genre. Finalement, quand on est croyant non pratiquant, on a une vie, du point de vue de la pratique, en tout cas, une vie qui ne se distingue pas beaucoup de celle de Monsieur Tout-le-Monde. Et au moment précis où je vous parle ce soir, manifestement, votre vie, à vous, elle se distingue de celle de Monsieur Tout-le-Monde, puisque vous êtes en train, précisément, de faire quelque chose de plutôt religieux, n'est-ce pas, en assistant à ce culte et en écoutant très consciencieusement la prédication de votre pasteur. Mais demain, à la même heure, est-ce que votre vie se distinguera de celle de Monsieur Tout-le-Monde ? Lorsque vous rentrerez du travail et que vous retrouverez votre conjoint ou vos enfants, ou lorsque vous sortirez du collège ou du lycée, pour ceux qui ont encore des cours, et que vous serez en train d'attendre le métro ou le bus avec vos amis, ou lorsque vous vous mettrez à table et que vous départagerez la nourriture et que vous discuterez de l'actualité et que vous planifierez vos prochaines dépenses et que vous fixerez peut-être même le programme de vos congés qui approchent. Finalement, les dimanches où on vient à l'église, on peut dire qu'on est un croyant pratiquant, en tout cas de 17h à 18h30 à peu près, mais le reste du temps, est-ce qu'on est un croyant très pratiquant ? Est-ce que vous êtes un croyant très pratiquant le reste du temps ? Je crois honnêtement, et c'est un peu ce qu'on va voir ce soir, qu'on a tous tendance à ne pas être assez pratiquant, si j'ose dire. Et le texte qu'on va lire va nous confirmer cette réalité, puisque c'est un texte dont le but est de nous mettre en garde contre la tentation de sous-estimer l'étendue pratique de l'appel que Dieu adresse aux croyants. Sous-estimer l'étendue pratique de l'appel que Dieu adresse aux croyants. Autrement dit, on ne pense pas que la foi concerne tant d'aspects pratiques de la vie que ça, mais on se trompe. Et dans ce texte qu'on va lire, qui s'adresse à l'origine au peuple d'Israël, il y a très longtemps, puisque c'était à l'époque de Moïse, vous allez voir que Dieu, il va énumérer, peut-être que ça va vous surprendre lorsqu'on va lire le texte, Dieu, il va énumérer toutes sortes d'obligations auxquelles les croyants étaient censés se soumettre dans toutes sortes de domaines de la vie différents. Toutes sortes d'obligations dans toutes sortes de domaines de la vie différents. Et la moralité de ce passage, c'est la suivante, vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est que le peuple de Dieu doit avoir une vie centrée sur Dieu. C'est-à-dire que notre foi, si nous sommes croyants, elle engage notre vie tout entière, dans toutes ses parties. Ou pour le dire encore autrement, il n'y a pas un domaine de notre vie qui ne se trouve pas sous la juridiction de Dieu et donc qui ne serait pas concerné par Dieu et par son œuvre. Et on va voir que cette idée, en fait, cette réalité même, a des implications pratique, peut-être plus importante qu'on ne le croit. On va lire donc, il s'agit du livre de l'Exode, chapitre 22, à partir du verset 15. Je vous invite à bien vous concentrer, prendre une grande respiration et à persévérer jusqu'à la fin de la lecture. C'est un passage assez long. Peut-être qu'il ne va pas vous intéresser a priori, mais c'est mon travail de vous le rendre intéressant, d'accord ? Je vous rappelle que c'est quand même la parole de Dieu que nous lisons, la parole inspirée de Dieu, utile pour notre édification. Lisons donc Exode chapitre 22 à partir du verset 15. Encore une fois, j'ai conscience que peut-être que les versets sont découpés un peu différemment dans votre traduction, ne soyez pas surpris si mon verset 15 ne correspond pas à votre verset 15, mais vous pourrez retrouver, j'en suis sûr, sans trop d'efforts, là où nous en sommes dans la lecture. Lorsqu'un homme séduira une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couchera avec elle, il paiera sa dot, puis il la prendra pour femme. Si le père refuse net de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'interdit. Tu n'exploiteras pas l'immigrant et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve ni l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient à moi, je saurai entendre leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous tuerai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu ne seras pas à son égard comme un créancier, tu n'exigeras pas de lui un intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement qu'il a sur la peau. Dans quoi coucherait-il ? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je fais grâce. Tu ne maudiras pas Dieu et tu ne prononceras pas d'imprécation contre le prince de ton peuple. Tu ne différeras pas de m'offrir ta pleine cuvée et ta redevance d'huile. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu feras de même pour ton gros et ton petit bétail. Le premier-né restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez pas de chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Tu ne colporteras pas de faux bruit. Tu ne prêteras pas la main aux méchants en étant témoin à charge. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté de la multitude pour violer la justice. Tu ne favoriseras pas l'indigent dans son procès. Lorsque tu rencontreras le bœuf de ton ennemi ou son âne qui s'est égaré, tu le lui ramèneras. Lorsque tu verras l'âne de celui qui a de la haine pour toi succomber sous sa charge et que tu hésiteras à le décharger, tu le déchargeras avec lui. Tu ne porteras pas atteinte aux droits du pauvre dans son procès. Tu t'abstiendras de toute parole fausse. Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne considérerai pas le méchant comme juste. Tu ne recevras pas de présents, car les présents aveuglent les clairvoyants et pervertissent les paroles des justes. Tu n'opprimeras pas l'immigrant. Vous savez ce qu'éprouve l'immigrant, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du répit et tu l'abandonneras à elle-même. Les pauvres de ton peuple mangeront et les animaux de la campagne mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu respecteras le sabbat, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ta servante et l'immigrant puissent souffler. Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit, et vous ne rappellerez pas le souvenir du nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende pas sortir de ta bouche. 3 fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé du mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face. Observe la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par an, tous tes hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras pas, avec du pain levé, le sang de mon sacrifice, et la graisse de la victime immolée pour ma fête ne sera pas conservée la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de son sol, et tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Prions. Seigneur, merci infiniment pour ta parole. Nous confessons ce que tous les chrétiens ont confessé dans toute l'histoire, à savoir que la Sainte Bible, c'est ta parole, celle que tu nous adresses. Et nous prions maintenant que tu bénisses la prédication de ta parole et que ces textes, tu nous en montres la pertinence pour notre vie aujourd'hui. Applique ta parole avec puissance à notre vie pour ta propre gloire. Nous t'en prions par Jésus-Christ. Amen. Alors, en lisant ce texte, la première chose qu'on peut remarquer, c'est le caractère vraiment, je dirais, englobant. Je ne sais pas si c'est un mot, peut-être un néologisme. Le caractère englobant des instructions que Dieu donne à son peuple. Vous avez vu, il y a toutes sortes de sujets différents qui sont abordés. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, on pourrait sans doute classer ces sujets en 2 catégories générales différentes. D'une part, la catégorie des relations horizontales entre les hommes, d'accord ? Et d'autre part, la catégorie des relations verticales entre les hommes et Dieu. On pourrait dire, il y a la catégorie du social et la catégorie du cultuel. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont les instructions contenues dans ce texte, en fait, elles alternent constamment entre les deux catégories. Il y a un va-et-vient constant entre ces deux catégories d'instructions. Versets 15 et 16, on a vu des instructions qui concernent le mariage et la famille. C'est du social, relation verticale, horizontale, pardon. Versets 17 à 19, il est question de rites religieux interdits. On reviendra un peu plus en détail tout à l'heure, mais il est question là du cultuel, de la relation verticale avec Dieu. Versets 20 à 26, il est question de la protection sociale des vulnérables, relation horizontale. Versets 27 à 30, il est question de consécration à Dieu, donc verticale. Versets 1 à 12 du chapitre 23, il est question encore de justice sociale et même de justice sociétale. On est dans l'horizontal. Versets 13 à 19, il est question des fêtes en l'honneur de Dieu. Il est question du culte, encore une fois, de cette relation verticale. Vous voyez ce va-et-vient constant entre ces deux catégories d'instruction. Et ce va-et-vient constant entre les obligations sociales et les obligations cultuelles des croyants montre, je pense, que pour Dieu, il n'y a pas de séparation nette entre les deux. Il n'y a pas de séparation radicale entre les deux. L'appel que Dieu adresse à son peuple forme un tout. Je vous rappelle que dans le contexte du livre de l'Exode, ici, on est en train d'étudier un texte qui appartient à une section qu'on appelle le livre de l'Alliance, les chapitres 21, 22 et 23 du livre de l'Exode, cette section qui vient juste après les 10 commandements. Et ce livre de l'Alliance, c'est le recueil, vraisemblablement, d'après les experts, le plus ancien que Dieu ait de loi ou d'instruction que Dieu ait donné à son peuple. Ça vient juste après les 10 commandements, juste après le moment où Dieu fait alliance avec son peuple dans le désert du Sinaï, après l'avoir libéré de l'esclavage en Égypte. D'accord ? Donc on est dans un texte important, presque une constitution, la première constitution de la nation d'Israël en quelque sorte. Et dans ces documents-là, on a ce mélange, ce va-et-vient entre ces différentes instructions, tantôt social, à caractère social, tantôt à caractère culturel, et qui nous montre que pour Dieu, l'appel qu'il adresse à son peuple forme un tout. Dieu a libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte, il a fait alliance avec eux, il en a fait un peuple, son peuple, le peuple qui appartient à l'Éternel, dont la vocation consiste à connaître l'Éternel et à le faire connaître au reste du monde. Et cette vocation, donc, en vertu de ce qu'on est en train de lire ici, cette vocation engage les Israélites entièrement. Elle les engage entièrement, aussi bien pour ce qui concerne leurs pratiques religieuses. Bon, bah, bien sûr, c'est Dieu qui appelle des gens, donc pratiques religieuses, mais aussi pour ce qui concerne tout le reste de leur vie. Et il est déjà important de remarquer cette idée, déjà en commençant à regarder ce texte, parce que nous sommes tentés, nous aujourd'hui, comme l'étaient sans doute les Israélites de cette époque, nous sommes tentés de nous dire que la foi, c'est-à-dire notre relation avec Dieu, notre relation avec cet être spirituel et invisible à l'œil nu qu'est Dieu, nous sommes tentés de nous dire que la foi relève seulement de ce qui est théologique, ou de ce qui est religieux, ou de ce qui est spirituel, et justement invisible et privé, et se cantonne à un espace séparé du reste de notre vie. Mais c'est complètement absurde, hein ? Imaginez que le nouveau président de la République vous nomme ministre du gouvernement. Vous ne pourriez pas ensuite vous dire que vous êtes ministre seulement à certaines heures de la journée, ou à certains endroits, ou quand vous faites certaines activités. Hein, vous ne pourriez pas prétendre que votre fonction de ministre, par exemple le ministre de la Justice, n'existe plus et que vous redevenez un simple citoyen lorsque vous êtes, par exemple, sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, sur Twitter, ou quand vous êtes à la radio, par exemple. Votre fonction ne s'interrompt pas, elle n'est pas mise en stand-by le temps que vous fassiez d'autres choses. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et l'actualité confirme ce que je suis en train de vous dire. De la même façon, notre vocation en tant que croyant nous engage complètement. Complètement. Il n'y a pas d'exception à cette vocation. Nous sommes ministres de Dieu. Ministre, ça veut dire serviteur. Hein. Nous sommes serviteurs de Dieu. Et il n'y a pas de domaine de notre vie qui ne soit pas concerné d'une façon ou d'une autre par cette vocation que Dieu nous adresse et qui consiste à être, nous tous collectivement, le peuple saint de l'Éternel, c'est-à-dire le peuple à part que Dieu a mis à part, que l'Éternel a mis à part dans le monde pour le connaître et le faire connaître au reste du monde. Ce que ça veut dire, vous l'avez bien compris, c'est que tout dans ma vie, si je suis croyant, devrait s'éprouver à l'aune de la révélation spéciale de Dieu. C'est-à-dire que je devrais, si je suis croyant, je devrais chercher à savoir ce que Dieu pense, non seulement de ma relation privée, personnelle avec lui, de mon culte, de ma louange, de la façon dont je prie, de ma compréhension théologique, de qui il est, etc. Je devrais chercher à savoir ce que Dieu pense, non seulement de tous ces domaines-là, mais aussi de la façon dont, par exemple, j'élève mes enfants, ou de la façon, si je suis enfant, dont je me comporte avec mes parents et mes frères et sœurs. Je devrais chercher à savoir ce que Dieu pense de la façon dont je traite mon conjoint, si j'en ai un ou une, ou de la façon dont je dépense mon argent, ou de la façon dont je parle à mon prochain ou de mon prochain quand il n'est pas là, ou encore de la façon dont je gère mon temps et mon argent, etc., etc. Je devrais chercher à savoir ce que Dieu pense de tous ces domaines. Il n'y a pas d'exception, et Dieu nous a donné un outil pour savoir ce qu'il pense. C'est la Sainte Bible, constituée des 49 livres de l'Ancien Testament et des 27 livres du Nouveau Testament, qui, comme le dit notre confession de foi, je cite, « ont tous été inspirés par Dieu pour être la règle de la foi et de la vie. » Donc Dieu nous donne des instructions englobantes. Mais il nous donne aussi des instructions cohérentes. Quand on lit ce texte, on se dit peut-être, et c'est peut-être ce que vous vous êtes dit, « Ouh là là, mais Dieu, il a l'air quand même vachement exigeant. » Et parfois, on se demande même si les instructions de Dieu ne sont pas un peu arbitraires. On se dit « Mais d'où ça sort, cette histoire ? Pourquoi Dieu il serait contre ceci ou contre cela ? Alors qu'on a l'impression que ça ferait du mal à personne si on les faisait à ces choses. » En réalité, quand on regarde le texte d'un peu plus près, on se rend compte qu'à plusieurs reprises, dans le passage qu'on a lu, Dieu, eh ben, il justifie en quelque sorte ses instructions. Et il les justifie en les rapportant à qui il est et à ce qu'il a fait. Regardez par exemple au verset 20. « Tu n'exploiteras pas l'immigrant et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Rappelez-vous ce que j'ai fait pour vous. Vous étiez immigrants, je vous ai sorti de là. » Souvenez-vous de ce que j'ai fait. Verset 26, tu rendras à ton prochain le vêtement que tu avais pris en gage, tu lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement qu'il a sur la peau. Dans quoi coucherait-il ? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je fais grâce. Le sens dans l'hébreu, c'est « car moi, je suis du genre de personne qui rend le manteau avant le coucher du soleil. Moi, j'ai fait grâce. Moi, j'ai compassion de ce type de personne. » Vous comprenez ? Il rapporte ce commandement à son caractère, à qui il est, lui, en tant que Dieu. Un peu plus loin, verset 7, chapitre suivant, « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car moi, je ne considère pas le méchant comme juste. » Etc., etc. En fait, Dieu est en train de montrer à son peuple que ces instructions, écoutez bien, que ces instructions sont en adéquation avec le réel. Comme s'il disait, écoutez, Israélites, vous vous demandez pourquoi vous devez faire ceci ou cela, mais c'est simple. Rappelez-vous mon caractère et mes œuvres en tant que Dieu Tout-Puissant, le seul et unique vrai Dieu vivant, moi qui suis à l'origine de tout ce qui existe, ok ? Rappelez-vous qui je suis et ce que j'ai fait. Et vous comprendrez mieux dans quel monde vous vivez. Et alors vous verrez plus clairement que mes instructions correspondent bien mieux à la réalité que les codes de loi des nations environnantes, qu'on appelle les païens, les autres qui ne connaissent pas l'Éternel. Et dans le texte, cette idée, elle est parfois explicite, comme dans les quelques exemples que je vous ai cités, mais parfois elle est implicite. Le texte a commencé, par exemple, avec des instructions qui concernent le mariage et la sexualité. Et on pourrait dire qu'il est implicite dans ce texte, dans ces versets, que respecter le mariage comme cadre exclusif de la sexualité, ça remonte à la création du premier homme et de la première femme. Il y a donc un ancrage créationnel, ça remonte aux origines de l'humanité, ça remonte à qui est Dieu et ce qu'il a fait, vous voyez ? C'est cohérent avec le réel. L'interdiction de la sorcellerie, l'interdiction des rites de fertilité, entre parenthèses, la bestialité ici correspond à un rite de fertilité pratiqué par les nations païennes. ou le syncrétisme religieux où on se dit, bon, l'Éternel c'est bien, mais de temps en temps on peut offrir un sacrifice à d'autres dieux, pourquoi pas, comme ça on couvre ses arrières. Ces choses-là sont interdites, pourquoi ? Parce que l'interdiction de ces choses est cohérente avec la vision biblique du monde d'après laquelle il n'y a que deux parties, si j'ose dire, à tout l'univers. Premièrement, ce qui n'a pas été créé, c'est-à-dire Dieu. Et d'autre part, ce qui a été créé, c'est-à-dire tout le reste. Et nous, en tant que, puisque nous faisons partie de tout le reste, nous n'avons pas le droit de nous attribuer comme prérogative d'aller nous amuser à essayer de manipuler des forces obscures, des forces ésotériques, occultes, vous voyez, d'où l'interdiction de la sorcellerie, ou encore d'aller essayer de solliciter la bienveillance, la faveur d'autres dieux prétendus. Vous voyez, c'est pas cohérent. Il n'y a que Dieu et le reste. Donc c'est cohérent, je veux dire, la loi de Dieu, ici, les instructions sont cohérentes avec le réel ou la réalité. C'est pareil pour toutes ces lois qui concernent la consécration des prémices et des premiers-nés. Ce sont des lois qui ne s'appliquent pas exactement de la même façon aujourd'hui, mais qui représentent la consécration totale à Dieu. C'est parce que je suis consacré complètement à Dieu que je lui dédie mes premiers-nés. C'est pour ça que je lui dédie la dîme de mon revenu, que je lui dédie les prémices de ma récolte. C'est pour représenter le fait qu'en fait, j'appartiens tout entier à Dieu. Et pourquoi j'appartiens tout entier à Dieu ? Parce que Dieu a payé un grand prix pour me sauver. Et les Israélites le savaient, surtout ceux qui reçoivent ces paroles, puisque ça fait pas si longtemps qu'ils étaient encore en Égypte et qu'ils ont vu à quel prix Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Quel était le prix ? La mort des premiers-nés égyptiens. Donc ils savent combien cela a coûté. Pour les racheter. Et donc, ils savent aussi, normalement, que consacrer leur premier-né, leur prémisse à Dieu, c'est cohérent avec qui Dieu est et ce qu'il a fait, c'est donc cohérent avec le réel, avec la réalité du monde dans lequel ils vivent. Et on pourrait continuer à citer d'autres exemples, j'en cite un autre, le motif du sabbat. Tu cultiveras tes champs pendant 6 ans, la 7e année, tu les laisseras. Tu laisseras tes champs souffler. Tu laisseras tes animaux en profiter. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu te reposeras. D'où ça sort ? Ça revient à la création du monde, n'est-ce pas ? Car ce motif, on le retrouve lorsque Dieu crée le monde en 6 jours, et le 7e jour, il se repose. Vous voyez l'ancrage dans le réel. Le peuple de Dieu doit recevoir ses instructions, non pas par conséquent comme une contrainte, mais comme un mode d'emploi. Le monde est ainsi fait que la meilleure façon d'y vivre, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Le monde est ainsi fait, puisque tels sont le caractère et les œuvres de son Créateur rédempteur. Le monde est ainsi fait que la meilleure façon d'y vivre, c'est comme ça. Et c'est peut-être le sens, d'ailleurs, de cette expression bizarre à la fin, là, « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère ». Les commentateurs ne savent pas exactement pourquoi c'est là. Et beaucoup supposent qu'il s'agit d'un rite païen de l'époque, qu'il ne fallait pas imiter et qui est pris ici comme symbole, comme emblème de ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je me demande si derrière cette expression, il n'y a pas quelque chose d'idiomatique. Vous savez, comme aujourd'hui, on dirait « tu ne vendras pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». On sait très bien que ça ne veut pas dire ça littéralement. Ou peut-être c'est une situation qui a existé dans l'histoire, mais qui est maintenant, dans le langage, est devenue plutôt emblématique de quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire s'engager quand on n'a pas les moyens de garantir ce pourquoi on s'engage. Et ici, je pense qu'il y a peut-être aussi l'idée qu'il ne faut pas pervertir l'ordre des choses. Le lait d'une mère, ce n'est pas pour bouillir et faire cuire l'enfant, n'est-ce pas ? Et on voit ici une image vraiment choquante, presque, en tout cas très parlante, de cette idée de vivre en adéquation ou en contradiction avec l'ordre que Dieu a créé, avec le réel, avec la réalité du monde dans lequel Dieu nous a placés, cette réalité que nous pouvons connaître en connaissant qui Dieu est et en connaissant ce qu'il a fait. Il n'y a pas très longtemps, on a remplacé notre cuisinière dans notre maison. Notre nouvelle cuisinière fonctionne au gaz et j'étais très fier d'avoir réussi à raccorder les brûleurs et à les faire marcher. Sauf que l'oncle de Suzanne, qui est ici présent ce soir, à utiliser la cuisinière quelques jours plus tard, et il nous a vite fait remarquer que les gicleurs, vous savez, les petits morceaux qui envoient le gaz, n'étaient pas les bons. Ce n'était pas adapté au type de gaz que nous recevions, auquel j'avais relié ma cuisinière. Les gicleurs étaient en fait adaptés au gaz de ville, et nous, notre gaz, ce n'est pas le gaz de ville, c'est le gaz, c'est du propane en citerne. Voilà, vous saurez tout sur la maison des Sarans. Où est-ce que je veux en venir? En fait, c'est très dangereux de faire fonctionner une cuisinière avec les mauvais gicleurs. Là, c'est vraiment très dangereux. Alors j'ai regardé les instructions d'installation après que Philippe m'a fait très peur. Et je peux vous dire que quand j'ai regardé les instructions, ça avait l'air extrêmement compliqué. Hein, tous ces codes, ces réglages au millibar près, etc., etc. Ça avait l'air très compliqué de changer les gicleurs. Alors j'aurais pu me dire à ce moment-là, mais quelle contrainte! Oh, c'est barbant cette histoire! Ça a d'ailleurs l'air de très bien marcher comme ça. Je ne vais pas m'inquiéter. Mais en fait, ce qui m'apparaissait comme une contrainte, c'était juste une mesure de sécurité. Et même une mesure d'optimisation de l'usage de ma cuisinière. Ça fonctionne mieux. C'est pas juste qu'on est plus en sécurité, mais en plus, ça fonctionne mieux. Et c'est pareil quand on considère les instructions de Dieu. Ça a l'air compliqué et contraignant. Et on les comprend pas toujours. On a même l'impression qu'on peut assez bien fonctionner sans les suivre, ces instructions. Pourquoi ne pas avoir de relations sexuelles sans être marié? Tout le monde le fait. Et il semble très bien s'en porter. Pourquoi ne pas consulter mon horoscope? Parfois, il y a des conseils vraiment utiles dans mon horoscope. Parfois, ça correspond bien à ma situation. Pourquoi ne pas laisser tomber le culte un dimanche de temps en temps? Je veux dire, il y a plein de gens qui y vont jamais au culte. Pourquoi je ne devrais pas favoriser les gens qui sont gentils avec moi? Il n'y a rien de plus naturel que de faire ça, etc., etc. Mais dans ce texte, Dieu rappelle aux croyants que ses instructions sont en adéquation avec son caractère et ses œuvres. Et donc, si nous sommes le peuple de Dieu, si nous sommes donc appelés à être saints, c'est-à-dire à part pour Dieu, pour le connaître et le faire connaître, eh bien, nous devons prendre à cœur toutes les instructions de Dieu, parce qu'elles sont fiables, elles sont en adéquation avec le réel, et elles sont fondamentalement bonnes pour nous et bonnes pour le monde. Voyez, Dieu, il a sauvé les Israélites de l'esclavage en Égypte pour les rétablir comme êtres humains. Et de même, Dieu sauve aujourd'hui les gens pour les rétablir, pour les réparer. Dieu, il veut réparer l'homme. Il veut réparer les relations, il veut réparer la famille, il veut réparer la société. Est-ce que vous avez remarqué qu'il veut même réparer la nature? Il veut que le champ puisse souffler, que les animaux aient du répit. Les instructions de Dieu sont destinées à optimiser le monde. Mais est-ce que nous le croyons lorsque nous recevons les instructions de Dieu? Donc les instructions de Dieu sont englobantes et elles sont cohérentes. C'est-à-dire qu'elles correspondent à qui Dieu est et à ce qu'il fait, et donc qu'elles correspondent au monde dans lequel nous vivons, et donc qu'elles correspondent fondamentalement à notre bonheur. Mais troisièmement et dernièrement, vous trouvez peut-être, en lisant ce texte, que les instructions de Dieu sont, par moments, du moins, extravagantes. Dans ce texte, on a remarqué que Dieu, eh ben, il voulait et il veut la justice. Il veut la droiture, l'intégrité morale, il veut l'équité, l'honnêteté. Dieu, il veut tout simplement que nous respections les règles. Et beaucoup de gens seraient d'ailleurs d'accord avec ces règles. Elles appartiennent souvent au bon sens. Bien sûr qu'il faut être juste dans un procès. Il ne faut pas faire mourir le méchant ou le juste comme s'il était méchant, etc. Il ne faut pas faire de favoritisme. Mais Dieu, dans ce texte, avez-vous remarqué qu'il veut que nous fassions même mieux que respecter les règles? Dieu veut que nous fassions mieux ou plus que simplement exercer la justice et l'équité. Verset 24, il dit que nous pouvons prêter à nos frères qui sont vulnérables, mais sans exiger d'intérêt. Bon, alors, non, mais ça, c'est pas juste. Si je prête, c'est normal que j'en obtienne une rémunération, non? Mais Dieu dit non, tu prêteras pas avec intérêt à celui dans ton peuple qui est dans le besoin, qui est vulnérable. Versets 25 et 26, on peut prendre un gage, mais si c'est son manteau, il faut lui rendre le soir, parce qu'on ne peut pas priver notre prochain de ce qui appartient à son, de ce qui fait partie de son strict nécessaire. Pourtant, ce serait juste. Il avait besoin d'un service, il avait besoin d'argent, je lui ai passé, il me donne ça en gage. Je ne vais pas lui rendre si lui ne m'a pas rendu ce que je lui ai prêté. Mais Dieu dit si. Donc on fait plus que juste la justice. Versets 4 et 5 du verset 23, nous devons nous montrer activement bienveillants, même à l'égard de celui qui nous déteste. Ton voisin, il te déteste, il ne peut pas t'encadrer, il ne peut pas te voir, mais va quand même l'aider quand sa voiture ne démarre pas le matin. Va quand même l'aider quand il est dans le besoin. Je ne suis pas obligé. Donc Dieu veut que j'aille plus loin même que ce qui est juste et équitable. C'est extravagant. Et ce motif, on l'a déjà vu la dernière fois d'ailleurs, où il était question par exemple de donner en compensation, en cas de gaffe, en cas d'accident, de donner en compensation, Dieu dit, le meilleur du produit de ton champ et de ta vigne. On pourrait juste donner le prix. Mais Dieu dit non, ça ne suffit pas de donner juste ce qui est juste. Donne le meilleur même. Le meilleur produit de ton champ ou de ta ville. Va au-delà de ce qu'exige la simple justice. Et ça, mes amis, c'est très important parce que c'est un motif qui nous révèle l'esprit de la loi de Dieu. Le but, c'est pas de nous inciter à faire le minimum pour être dans les clous. Vous voyez ce que je veux dire ? Le but, c'est de nous inciter à faire le maximum pour refléter le caractère de Dieu, qui lui-même n'est pas seulement juste, mais qui est aussi riche en bonté, en patience, en compassion, lui qui fait grâce, comme il dit au verset 26. C'est pourquoi Jésus lui-même, c'est pas la première fois que je me réfère au sermon sur la montagne, en rapport avec ce texte, parce que c'est ce que Jésus fait dans le sermon sur la montagne, il est en quelque sorte en train d'interpréter pour nous la loi de Moïse. Mais Jésus lui-même, il dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Et un peu plus loin, Jésus ajoute, « Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Que faites-vous d'extravagant ? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Alors oui, on est carrément dans l'extravagance, d'accord ? Soyez parfaits comme Dieu. Est-ce que vous y arrivez ? Je ne sais pas, est-ce que vous pensez qu'avec un peu d'entraînement, voire beaucoup d'entraînement, vous pouvez y arriver ? Non. Et c'est fait exprès. Dieu communique à son peuple ses instructions qui sont englobantes, on l'a vu, qui sont cohérentes, et qui sont extravagantes, et ce que cela devrait produire en nous, c'est d'abord le désir de les suivre, ces instructions, parce que nous savons qu'elles sont bonnes, nous savons qu'elles s'ancrent dans le réel, qu'elles correspondent à qui Dieu est et ce qu'il fait, mais ensuite, ce que ça devrait produire en nous, c'est une certaine introspection. Pourquoi une certaine introspection ? Parce que nous devrions nous rendre compte que ces instructions, en fin de compte, sont au-dessus de nos forces. Et nous devrions par conséquent nous demander honnêtement et humblement pourquoi elles sont au-dessus de nos forces. C'est comme si je vous disais, regarde ce magnifique tableau de Rembrandt. Magnifique, n'est-ce pas ? Sublime ! Maintenant, tiens, je te donne une toile, je te donne un pinceau, je te donne de la peinture, c'est à toi de jouer. Vas-y, reproduis-le. Fais quelque chose d'aussi bien, voire mieux. Alors vous pourriez avoir envie de faire aussi bien. Parce que vous appréciez ce qui est beau, vous reconnaissez ce qui est beau. Mais vous vous rendriez compte que même avec de l'entraînement, vous n'y arriveriez jamais. Mais comment ça se fait ? C'est pourtant la même peinture, la même toile, le même pinceau, sans doute la même motivation, sans doute même le même goût esthétique. Et pourquoi ? Pourquoi vous n'y arrivez pas ? Parce qu'il vous manque quelque chose que Rembrandt il avait. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « Je prends plaisir à la loi de Dieu, dans mon fort intérieur. » Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Et mes amis, si à ce stade de cette prédication, c'est la question que vous vous posez, c'est que la parole de Dieu est en train d'atteindre son but sous l'effet du Saint-Esprit. Vous savez, les Israélites de l'époque de Moïse qui reçoivent ce texte, au moment où ils le reçoivent et qu'ils le découvrent, ils reconnaissent logiquement que cette loi est bonne. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait pas longtemps qu'ils ont vu Dieu à l'œuvre. Ils ont une assez bonne idée de comment il est Dieu et de ce qu'il fait dans le monde. D'ailleurs, quelques pages auparavant, ils l'ont même entendu parler à voix haute depuis le haut de la montagne. Ils n'ont aucun doute que cette loi, elle est bonne, elle vient de Dieu. Mais les Israélites qui reçoivent cette loi, ils sont en même temps renvoyés à l'état de leur propre cœur. Et ils sont censés se reposer humblement sur Dieu et sur ses promesses de grâce, parce que la loi de Dieu contient aussi ses promesses de grâce. Et dans ce sens, la loi est à la fois bonne et utile pour leur vie, pour leur culte, pour leur société en tant que nation sainte, mais les exigences de la loi sont telles qu'elles préparent aussi le peuple à accueillir le héros dont Dieu a annoncé d'avance la venue, le fameux Messie qui, lui, saura accomplir parfaitement la loi au nom du peuple, comme représentant du peuple, et qui pourra ainsi délivrer le peuple de ce qui est aussi prévu dans la loi de Dieu, à savoir la malédiction. Ça, on le verra d'ailleurs plus en détail la prochaine fois. Autrement dit, les instructions de Dieu, à la fois, elles orientent la vie d'un point de vue pratique, elles sont utiles pratiquement pour la vie, mais en même temps, elles créent une attente, l'attente d'une délivrance, l'attente de la venue de ce personnage qui est le Messie, qui saura délivrer son peuple des conséquences de leur cœur pécheur. Cette attente a été parfaitement satisfaite par Jésus, le Christ, le Messie, qui est venu de la part de Dieu, conformément aux promesses de grâce de Dieu. Et il est venu pour se substituer aux croyants, d'une part, pour obéir à leur place, donc il se substitue aux croyants pour obéir à leur place, et il se substitue aux croyants d'autre part pour subir à leur place le châtiment de leurs péchés. Ainsi, Jésus échange sa justice parfaite, sa justice englobante, cohérente et extravagante, la justice de Dieu, bref, il l'échange contre les péchés des croyants. Il prend sur lui les péchés des croyants, et en échange, cette justice parfaite, il l'attribue aux croyants. Il impute aux croyants les conséquences de son obéissance parfaite et il prend sur lui les conséquences de notre désobéissance, c'est-à-dire de nos péchés. Et il fait ça sur la croix. C'est comme si Jésus peignait un tableau plus magnifique encore que celui de Rembrandt et qu'il le signait avec votre nom et qu'il vous impute les conséquences de son obéissance, le fruit de son obéissance. Et donc, quelle était la question qu'on se posait au départ ? Aujourd'hui, à 18h25, on est un petit peu en retard, vous êtes manifestement un croyant pratiquant. Ça se voit sur votre visage. Mais demain, à la même heure, est-ce que votre vie se distinguera de celle de Monsieur Tout-le-Monde ? Et on a vu, n'est-ce pas, que ce texte nous mettait en garde contre la tentation de sous-estimer l'étendue pratique de l'appel que Dieu nous adresse si nous sommes croyants. C'est vrai qu'on ne pense pas que la foi concerne tant d'aspects pratiques de la vie que ça. Mais en réalité, on l'a vu ce soir, les instructions de Dieu sont englobantes, elles sont aussi cohérentes et elles sont parfois extravagantes. Tel est le programme de Dieu pour le peuple sur lequel son nom est invoqué. Le peuple de Dieu doit avoir une vie centrée sur Dieu et cela d'autant plus que Dieu a payé un prix extraordinairement élevé pour le racheter son peuple. C'est-à-dire que Dieu, il est à la base le créateur tout-puissant du monde. Et c'était déjà une raison suffisante pour lui obéir, vous ne pensez pas ? Il n'est pas juste le créateur tout-puissant du monde, il est aussi le régisseur souverain du monde, il est même le juge parfait du monde. Et donc, on peut vraiment être sûr que ces instructions sont bonnes pour nous, bonnes pour notre société, et qu'elles sont moralement justes. Donc, bien sûr que notre vie devrait être centrée sur lui, on a plein de raisons de le penser. Mais en plus de tout ça, Dieu le créateur, le régisseur, le juge, il est aussi notre Sauveur. Et il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quoi de plus normal maintenant que de considérer que tous les domaines de notre vie le concernent. La façon dont je me comporte avec mes proches, ma vie de prière, ma piété personnelle quand personne ne regarde, la façon dont je dépense mon temps, ou la façon dont je dépense mon argent, mon investissement dans l'Église et dans la vie de mes frères et sœurs dans la foi, ma relation avec les gens qui m'aiment, qui m'admirent, mais aussi la relation avec les gens qui ne m'aiment pas et qui me méprisent, ma vie intérieure, mes pensées, mes motivations, même mes émotions. Il n'y a rien qui ne concerne pas Dieu. Dieu a un bon programme pour nous, puisqu'il nous a rachetés pour nous réparer. Et ce n'est pas une contrainte, c'est une chance pour nous. Les instructions de Dieu, elles ont pour objet, comme on l'a vu dans ce texte, le rétablissement de notre dignité en tant qu'être humain, le rétablissement de nos relations, le bien de la société et même le bien de la nature. Et c'est comme ça que nous devons les recevoir, ces instructions, et chercher humblement à les comprendre et à les appliquer en demeurant suspendus à la grâce que Dieu nous a manifestée en Jésus. Amen. Prions. Merci notre Dieu pour ta parole et en particulier pour le texte que nous avons lu et étudié ce soir. Nous confessons que ta loi, tes instructions sont toutes bonnes et justes et utiles pour nous. Aide-nous, s'il te plaît, par ton Saint-Esprit, à avoir le désir de voir tes instructions s'appliquer à notre vie. Nous n'avons pas les forces, Seigneur, par nous-mêmes, d'obéir pleinement à tes voix. Aie pitié de nous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Relève-nous à chaque fois que nous échouons. Et encourage-nous sur le chemin, sur un chemin qui te glorifie et qui te fera connaître au reste du monde. T'en prions au nom de Jésus. Amen.